Platon. Gorgias ou Sur la rhétorique. Traduction Émile Chambry. Les personnages. Calliclès, Socrate, Caïréphon, Gorgias, Polos. Calliclès. C'est à la guerre et à la bataille, Socrate, qu'il faut, dit le proverbe, prendre part comme vous faites. Socrate. Est-ce que nous sommes, comme on dit, arrivés après la fête? Sommes-nous en retard? Calliclès. Oui, et après une fête délicieuse, car Gorgias vient de nous faire entendre une foule de belles choses. Socrate. La faute en est, Calliclès, à Caïréphon que voici. Il nous a fait perdre notre temps à l'agora. Caïréphon. Cela ne fait rien, Socrate. Je réparerai le mal. Gorgias est mon ami, et il nous fera la faveur de l'entendre tout de suite, si tu veux. Une autre fois, si tu préfères. Calliclès. Que dis-tu, Caïréphon? Socrate désire entendre Gorgias? Caïréphon. C'est juste pour cela que nous sommes venus. Calliclès. Eh bien, venez chez moi quand vous voudrez. C'est chez moi que Gorgias est descendu. Il vous donnera une séance. Socrate. C'est bien aimable à toi, Calliclès. Mais consentira-t-il à causer avec nous? Je voudrais savoir de lui quelle est la vertu de son art et en quoi consiste ce qu'il professe et enseigne. Pour le reste, il pourra, comme tu dis, nous donner une séance en une autre occasion. Calliclès. Il n'y a rien de tel, Socrate, que de l'interroger lui-même. C'était justement un des points de son exposition, car il invitait tout à l'heure ceux qui étaient séants à lui poser toutes les questions qui leur plaisaient, et il s'engageait à répondre à toutes. Socrate. C'est parfait, cela. Interroge-le, Caïréphon. Caïréphon. Que faut-il lui demander? Socrate. Ce qu'il est. Caïréphon. Que veux-tu dire? Socrate. Si, par exemple, il était fabricant de chaussures. Il te répondrait, évidemment, qu'il est cordonnier. Ne saisis-tu pas ce que je dis? Caïréphon. Je saisis. Et je vais l'interroger. Dis-moi, Gorgias, ce que dit Calliclès est-il vrai que tu t'engages à répondre à toutes les questions qu'on peut te poser? Gorgias. C'est vrai, Caïréphon, et c'est justement à quoi je m'engageais tout à l'heure. Et je puis dire que personne encore, depuis bien des années, ne m'a posé une question qui m'ait surpris. Caïréphon. Tu n'auras donc pas de peine à répondre, Gorgias. Gorgias. Il ne tient qu'à toi, Caïréphon, d'en faire l'essai. Polos. Oui, par Zeus, mais si tu le veux bien, Caïréphon, fais-le sur moi, car Gorgias doit être fatigué. Il vient de tenir un long discours. Caïréphon. Quoi donc? Polos, te flattes-tu de mieux répondre que Gorgias? Polos. Qu'importe si je te fais une réponse satisfaisante? Caïréphon. Il n'importe en rien, et puisque tu le veux, réponds. Polos. Questionne. Caïréphon. Voici ma question. Si Gorgias s'entendait à l'art que professe son frère Hérodicos, quel nom devrions-nous lui donner? Le même qu'à son frère, n'est-ce pas? Polos. Oui. Caïréphon. En disant qu'il est médecin, nous parlerions donc correctement. Polos. Oui. Caïréphon. Et s'il était versé dans l'art d'Aristophone, fils d'Aglaophon, ou de son frère? Quel nom devrions-nous lui donner? Polos. Celui de peintre, évidemment. Caïréphon. Mais en fait, dans quel art est-il versé, et quel nom devons-nous lui donner? Polos. Caïréphon. Il existe dans le monde beaucoup d'arts qu'à force d'expérience, l'expérience a découvert. Car l'expérience fait que notre vie est dirigée selon l'art, et l'inexpérience au gré du hasard. De ces différents arts, les uns choisissent ceci, les autres ceux-là, chacun à sa manière. Et les meilleurs choisissent les meilleurs. Gorgias est de ce nombre, et l'art qu'il possède est le plus beau. Socrate. Je vois, Gorgias, que Polos est merveilleusement entraîné à discourir. Mais il ne fait pas ce qu'il a promis à Caïréphon. Gorgias. Comment cela, Socrate? Socrate. Il me semble qu'il ne répond pas exactement à ce qu'on lui demande. Gorgias. Eh bien, questionne-le, toi, si tu veux. Socrate. Non. Mais si tu veux bien me répondre toi-même, alors je t'interrogerai, toi, bien plus volontiers. Car il est clair pour moi, d'après ce qu'il vient de dire, que Paulos s'est plus exercé à ce qu'on appelle la rhétorique qu'au dialogue. Paulos. Pourquoi cela, Socrate ? Socrate. Parce que Paulos, Caïréphonte ayant demandé dans quel art Gorgias s'est versé, tu fais l'éloge de son art, comme si on le critiquait, mais que tu n'as pas répondu en quoi il consistait. Paulos. N'ai-je pas répondu que c'est le plus beau ? Socrate. Sans doute. Mais on ne te demande pas quelle est la qualité de l'art de Gorgias, mais ce qu'il est, et quel nom il faut donner à Gorgias. Lorsque Caïréphonte a proposé des exemples, tu lui as répondu avec justesse et brièveté. Fais de même à présent, et dis-nous quel est l'art de Gorgias, et quel nom il faut lui donner à lui-même. Ou plutôt, Gorgias, dis-nous toi-même quel est l'art dont tu es maître, et quel nom il faut te donner. Gorgias. Mon art est la rhétorique. Socrate. Il faut donc t'appeler orateur. Gorgias. Et bon orateur, Socrate, si tu veux m'appeler ce que je me glorifie d'être, pour parler comme Homère. Socrate. Mais oui, je le veux. Gorgias. Appelle-moi donc ainsi. Socrate. Ne dirons-nous pas aussi que tu es capable de communiquer ton art à d'autres ? Gorgias. Oui, je m'en fais fort, et non seulement ici, mais ailleurs aussi. Socrate. Eh bien, consentirais-tu, Gorgias, à poursuivre l'entretien comme nous le faisons à présent, en alternant les questions et les réponses, et à remettre à une autre fois les longs discours que Paulos a inaugurés ? Mais ne manque pas à ta promesse, et réduis-toi à répondre brièvement à chaque question. Gorgias, il y a des réponses, Socrate, qui exigent de longs développements. Cependant, je tâcherai d'y mettre toute la brièveté possible, car c'est encore une chose dont je me flatte, que personne ne saurait dire en moins de mots les mêmes choses que moi. Socrate, c'est ce qu'il faut ici, Gorgias. Fais montre de ce talent dont tu te vantes, la brièveté. Laisse les longs discours pour une autre occasion. Gorgias, c'est ce que je vais faire, et tu conviendras que tu n'as jamais entendu parler plus brièvement. Socrate. Eh bien donc, puisque tu prétends être savant dans l'art de la rhétorique et capable de former des orateurs, dis-moi quel est l'objet particulier de la rhétorique. Par exemple, l'art du tisserand a pour objet la confection des habits, n'est-il pas vrai ? Gorgias. Oui. Socrate. Et la musique, la composition des chants. Gorgias. Oui. Socrate. Parera, Gorgias, j'admire tes réponses. On en saurait faire de plus courtes. Gorgias. Je crois en effet, Socrate, que je ne m'en acquitte pas mal. Socrate. C'est juste. Réponds-moi donc de la même façon sur la rhétorique. De quel objet particulier est-elle la science ? Gorgias. Des discours. Socrate. De quel discours, Gorgias ? Est-ce de ceux qui indiquent aux malades le régime qu'ils doivent suivre pour se rétablir ? Gorgias. Non. Socrate. La rhétorique n'a donc pas pour objet tous les discours. Gorgias. Assurément non. Socrate. Cependant, elle rend capable de parler. Gorgias. Oui. Socrate. Et par conséquent, aussi, de penser sur les choses dont elle apprend à parler. Gorgias. Cela va de soi. Socrate. Mais la médecine dont nous parlions tout à l'heure ne met-elle pas en état de penser et de parler sur les malades ? Gorgias. Nécessairement. Socrate. Par conséquent, la médecine aussi, à ce qu'il paraît, a pour objet les discours. Gorgias. Oui. Socrate. Ce qui concerne les maladies ? Gorgias. Précisément. Socrate. La gymnastique aussi a pour objet les discours relatifs à la bonne et à la mauvaise disposition des corps. Gorgias. Assurément. Socrate. Et il en est de même, Gorgias, des autres arts. Chacun d'eux a pour objet les discours relatifs à la chose sur laquelle il s'exerce. Gorgias. Évidemment. Socrate. Pourquoi donc n'appliques-tu pas le nom de rhétorique aux autres arts qui ont aussi pour objet les discours, puisque tu appelles rhétorique l'art qui se rapporte au discours ? Gorgias. C'est que Socrate, dans les autres arts, c'est à des travaux manuels et à des actes du même genre que se rapportent presque toutes les connaissances de l'artiste, tandis que la rhétorique ne comporte aucun travail des mains, et que tous ces actes et tous ces effets sont produits par des discours. Voilà pourquoi je prétends que la rhétorique a pour objet les discours, et je soutiens que ma définition est exacte. Socrate, je me demande si je comprends bien ce que tu entends par ce mot de rhétorique. Je le verrai plus clairement tout à l'heure. Réponds-moi. Il existe des arts, n'est-ce pas ? Gorgias. Oui. Socrate. Parmi tous ces arts, les uns, je crois, s'occupent surtout de la confection des objets, et n'ont guère besoin du discours. Quelques-uns même n'en ont que faire. Ils pourraient même accomplir leur besogne en silence, comme il arrive pour la peinture, la sculpture, et bien d'autres. Ce sont là, je suppose, que tu prétends n'avoir aucun rapport avec la rhétorique, n'est-ce pas vrai ? Gorgias. Tu saisis fort bien ma pensée, Socrate. Socrate. Mais il en est d'autres qui n'exécutent rien que par la parole et qui n'ont, pour ainsi dire, besoin d'aucune action ou n'en exigent que très peu, comme l'arithmétique, le calcul, la géométrie, le tric-trac et beaucoup d'autres, dont quelques-uns demandent autant de paroles que d'actions. Mais la plupart davantage, si bien que les discours sont absolument leur seul moyen d'agir et de produire. C'est parmi ces derniers, ce me semble, que tu ranges la rhétorique. Gorgias. C'est exact. Socrate. Je ne pense pas néanmoins que tu veuilles donner le nom de rhétorique à aucun d'eux, bien qu'à s'en tenir à tes paroles, tu aies affirmé que l'art dont toute la force est dans la parole est la rhétorique, et qu'on puisse te répondre, si l'on voulait ergoter sur les mots, alors, c'est l'arithmétique, Gorgias, que tu appelles rhétorique. Mais je ne pense pas que tu appelles rhétorique ni l'arithmétique, ni la géométrie. Gorgias. Tu ne te trompes pas, Socrate, et tu as raison de penser ainsi. Socrate. Allons maintenant, c'est à toi d'achever la réponse à ma question. Puisque la rhétorique est un de ces arts qui relève surtout du discours et qu'il y en a d'autres dans le même cas, tâche d'expliquer à quoi se rapporte cette rhétorique qui agit par la parole. Si par exemple on me demandait à propos d'un quelconque de ces arts que je viens de nommer, qu'est-ce que l'arithmétique, Socrate ? Je répondrais, comme tu l'as fait tout à l'heure, que c'est un art qui s'exerce par la parole. Et si l'on me demandait, en outre, par rapport à quoi ? Je répondrais, par rapport au pair et à l'impair, et aux chiffres où l'un et l'autre peut monter. Pareillement, si l'on me demandait « À quel art donnes-tu le nom de calcul ?» je répondrais que le calcul aussi est un des arts qui s'exerce uniquement par la parole. Et si l'on me demandait en outre « Par rapport à quoi ?» je répondrais, comme les rédacteurs des décrets dans l'Assemblée du peuple, pour tout le reste. Le calcul est comme l'arithmétique puisqu'il a rapport aux mêmes choses, le pair et l'impair. Mais le calcul en diffère en un point. C'est qu'il considère les valeurs numériques du pair et de l'impair, non seulement en elles-mêmes, mais encore dans leurs relations l'une avec l'autre. Et si l'on m'interrogeait sur l'astronomie, je dirais qu'elle aussi réalise son objet uniquement par la parole. Et si l'on ajoutait « Mais ces discours de l'astronomie, Socrate, à quoi se rapportent-ils » je répondrais que c'est au cours des astres, du soleil et de la lune, et à leur vitesse relative. Gorgias. Et ce serait bien répondu, Socrate. Socrate. Eh bien maintenant, Gorgias, à ton tour. La rhétorique est justement un des arts qui accomplissent et achèvent leurs tâches uniquement au moyen de discours. N'est-il pas vrai ? Gorgias. C'est vrai. Socrate. Dis-moi donc à présent sur quoi portent ces discours. Quelle est, entre toutes les choses de ce monde, celle dont traitent ces discours propres à la rhétorique ? Gorgias. Ce sont les plus grandes de toutes les affaires humaines, Socrate, et les meilleures. Socrate. Mais, Gorgias, ce que tu dis là est sujet à discussion, et n'offre encore aucune précision. Tu as sans doute entendu chanter dans les banquets cette chanson qui, dans l'énumération des biens, dit que le meilleur est la santé, que le second est la beauté, et que le troisième est, selon l'expression de l'auteur de la chanson, la richesse acquise sans fraude. Gorgias. Je l'ai entendu, en effet, mais où veux-tu en venir ? Socrate, c'est que tu pourrais bien être assailli tout de suite par les artisans de ces biens vantés par l'auteur de la chanson, le médecin, le pédotribe et le financier. Et que le médecin le premier pourrait me dire « Socrate, Gorgias te trompe, ce n'est pas son art qui a pour objet le plus grand bien de l'humanité, c'est le mien. » Et si je lui demandais « Qui es-tu, toi, pour parler de la sorte ?» il me répondrait sans doute qu'il est médecin. « Que prétends-tu donc, que le produit de ton art est le plus grand des biens ?» il me répondrait sans doute « Comment le contester, Socrate, puisque c'est la santé ?» Le pédotribe, à son tour, me disait « Je serais, ma foi, bien surpris, moi aussi, Socrate, que Gorgias pût te montrer de son art un bien plus grand que moi du mien. » Je lui répondrais à lui aussi « Qui es-tu, l'ami, et quel est ton ouvrage ?»« Je suis pédotribe, dirait-il, et mon ouvrage, c'est de rendre les hommes beaux et robustes de corps. Après le pédotribe, ce serait, je pense, le financier, qui me dirait avec un souverain mépris pour tous les autres, « Vois donc, Socrate, si tu peux découvrir un bien plus grand que la richesse, soit chez Gorgias, soit chez tout autre. » Quoi donc, lui dirions-nous, es-tu toi fabricant de richesses? Oui. En quelle qualité? En qualité de financier. Et alors, dirions-nous, tu juges, toi, que la richesse est pour les hommes le plus grand des biens? Sans contredit, dirait-il. Voici pourtant Gorgias, répondrions-nous, qui proteste que son art produit un plus grand bien que le tien. Il est clair qu'après cela, il demanderait « Et quel est ce bien ?» Que Gorgias s'explique. Alors, allons Gorgias, figure-toi que, et moi, nous te posons cette question. Dis-nous quelle est cette chose que tu prétends être pour les hommes le plus grand des biens et que tu te vantes de produire, Gorgias. C'est elle qui est réellement le bien suprême, Socrate, qui fait que les hommes sont libres eux-mêmes et en même temps qu'ils commandent aux autres dans leur cité respective. Socrate, que veux-tu donc dire par là? Gorgias, je veux dire le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le conseil, les citoyens dans l'assemblée du peuple et dans toute autre réunion qui soit une réunion de citoyens. Avec ce pouvoir, tu feras ton esclave du médecin, ton esclave du pédotribe, et quant aux femmes financiers, on reconnaîtra que ce n'est pas pour lui qu'il amasse de l'argent, mais pour autrui, pour toi qui sais parler et persuader les foules. Socrate. À présent, Gorgias, il me paraît que tu as montré d'aussi près que possible quelle est pour toi la rhétorique. Et si je comprends bien, ton idée est que la rhétorique est l'ouvrière de la persuasion et que tous ses efforts et sa tâche essentielle se réduisent à cela. Pourrais-tu, en effet, soutenir que son pouvoir aille plus loin que de produire la persuasion dans l'âme des auditeurs? Gorgias. Nullement, Socrate, et tu me parais l'avoir bien défini, car telle est bien sa tâche essentielle. Socrate, écoute-moi, Gorgias, je veux que tu saches, comme j'en suis persuadé moi-même, que s'il y a des gens qui, en conversant ensemble, soient jaloux de se faire une idée claire de l'objet du débat, je suis moi-même un de ceux-là, et toi aussi, je pense. Gorgias, à quoi tend ceci, Socrate? Socrate, je vais te le dire. Cette persuasion dont tu parles, qui vient de la rhétorique, qu'est-elle au juste, et sur quoi porte-t-elle? Je t'avoue que je ne le vois pas bien nettement, bien que je soupçonne ce que tu penses, et de sa nature, et de son objet. Mais je ne t'en demanderai pas moins quelle est, à ton jugement, cette persuasion produite par la rhétorique, et à quel objet tu crois qu'elle s'applique. Quelle raison me pousse, alors que je devine ta pensée, à t'interroger, au lieu de l'exposer moi-même? Ce n'est pas à cause de toi que je le fais, c'est en vue de notre discours, afin qu'il progresse de manière à nous faire voir sous le jour le plus clair l'objet dont nous discutons. Vois donc si je n'ai pas raison de t'interroger encore. Si par exemple je t'avais demandé dans quelle classe de peintre est Zeuxis, et que tu m'eusses répondu que c'est un peintre d'être animé, n'aurais-je pas été en droit de te demander quel être animé il peint? N'est-ce pas vrai? Gorgias. Si. Socrate. Et cela parce qu'il y a d'autres peintres qui peignent une foule d'autres figures animées que les siennes. Gorgias. Oui. Socrate. Au lieu que si Zeuxis était le seul qui en peignit, tu aurais bien répondu. Gorgias. Assurément. Socrate. Eh bien, à propos de la rhétorique, dis-moi, crois-tu qu'elle soit seule à créer la persuasion, ou si d'autres arts la produisent également? Je m'explique. Quand on enseigne une chose, quelle qu'elle soit, persuade-t-on ce qu'on enseigne? Oui ou non? Gorgias. Oui, Socrate. On le persuade, très certainement. Socrate. Revenons maintenant aux arts dont nous parlions tout à l'heure. L'arithmétique ne nous enseigne-t-elle pas ce qui se rapporte au nombre, ainsi que l'arithméticien? Gorgias. Certainement. Socrate. Donc elle persuade aussi. Gorgias. Oui. Socrate. C'est donc aussi une ouvrière de persuasion que l'arithmétique. Gorgias. Évidemment. Socrate. Par conséquent, si l'on nous demande de quelle persuasion et à quoi elle s'applique, nous répondrons, je pense, d'une persuasion qui enseigne la grandeur du nombre, soit pair, soit impair. De même pour les autres arts que nous avons mentionnés tout à l'heure, nous pourrions montrer qu'ils produisent la persuasion. Quel genre de persuasion et à propos de quoi? N'est-ce pas vrai? Gorgias.
Si.
Socrate. Par conséquent, la rhétorique n'est pas la seule ouvrière de persuasion.
Gorgias.
Tu dis vrai.
Socrate.
Puis, donc, qu'elle n'est pas la seule à produire cet effet et que d'autres arts en font autant. Nous sommes en droit, comme à propos du peintre, de demander encore à notre interlocuteur de quelle persuasion la rhétorique est l'art et à quoi s'applique cette persuasion. Ne trouves-tu pas cette nouvelle question justifiée ?
Gorgias.
Si.
Socrate.
Réponds-moi donc, Gorgias, puisque tu es de mon avis.
Gorgias.
Je dis, Socrate, que cette persuasion est celle qui se produit dans les tribunaux et dans les autres assemblées, ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, et qu'elle a pour objet le juste et l'injuste.
Socrate.
Je soupçonnais bien moi-même, Gorgias, que c'était cette persuasion et ses objets que tu avais en vue. Mais pour que tu ne sois pas surpris si dans un instant je te pose encore une question semblable sur un point qui paraît clair et sur lequel je veux néanmoins t'interroger, je te répète qu'en te questionnant je n'ai d'autre but que de faire progresser régulièrement la discussion et que je ne vise point ta personne. Il ne faut pas que nous prenions l'habitude, sous prétexte que nous nous devinons, d'anticiper précipitamment nos pensées mutuelles. Et il faut que toi-même, tu fasses ta partie à ta manière et suivant ton idée.
Gorgias.
Ta méthode, Socrate, me paraît excellente.
Socrate.
Alors continuons et examinons encore ceci. Y a-t-il quelque chose que tu appelles savoir ?
Gorgias.
Oui.
Socrate.
Et quelque chose que tu appelles croire ?
Gorgias.
Certainement.
Socrate.
Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses identiques et différente.
Gorgias.
Pour moi, Socrate, je les tiens pour différentes.
Socrate. Tu as raison,
et je vais t'en donner la preuve. Si l'on te demandait, y a-t-il, Gorgias, une croyance fausse et une vraie ?
Tu dirais,
oui, je suppose.
Gorgias.
Oui.
Socrate.
Mais y a-t-il de même une science fausse et une vraie ?
Gorgias.
Pas du tout.
Socrate.
Il est donc évident que savoir et croire ne sont pas la même chose.
Gorgias.
C'est juste.
Socrate.
Cependant, ceux qui croient sont persuadés aussi bien que ceux qui savent.
Gorgias.
C'est vrai.
Socrate.
Alors veux-tu que nous admettions deux sortes de persuasions, l'une qui produit la croyance sans la science, et l'autre qui produit la science.
Gorgias.
Parfaitement.
Socrate.
De ces deux persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux et les autres assemblées relativement au juste et à l'injuste ? Est-ce celle d'où naît la croyance, sans la science, ou celle qui engendre la science ?
Gorgias.
Il est bien évident, Socrate, que c'est celle d'où naît la croyance.
Socrate.
La rhétorique est donc, à ce qu'il paraît, l'ouvrière de la persuasion qui fait croire, non de celle qui fait savoir, relativement au juste et à l'injuste.
Gorgias.
Oui.
Socrate.
À ce compte, l'orateur n'est pas propre à instruire les tribunaux et les autres assemblées sur le juste et l'injuste. Il ne peut leur donner que la croyance. Le fait est qu'il ne pourrait instruire en si peu de temps une foule si nombreuse sur de si grands sujets.
Gorgias.
Assurément non.
Socrate.
Allons maintenant, examinons la portée de nos opinions sur la rhétorique, car pour moi, je n'arrive pas encore à préciser ce que j'en pense. Lorsque la cité convoque une assemblée pour choisir des médecins, des constructeurs de navires ou quelques autres espèces d'artisans. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'homme habile à parler que l'on consultera, car il est clair que dans chacun de ses choix, c'est l'homme de métier le plus habile qu'il faut prendre. Ce n'est pas lui non plus que l'on consultera s'il s'agit de construire des remparts ou d'installer des ports ou des arsenaux, mais bien les architectes. De même encore, quand on délibérera sur le choix des généraux, l'ordre de bataille d'une armée, l'enlèvement d'une place forte, c'est aux experts dans l'art militaire qu'on demandera conseil, et non aux experts dans la parole. Qu'en penses-tu, Gorgias ? Puisque tu déclares que tu es toi-même orateur et que tu es capable de former des orateurs, il est juste que tu nous renseignes sur ce qui concerne ton art. Sois persuadé qu'en ce moment, moi-même, je défends tes intérêts. Peut-être en effet y a-t-il ici, parmi les assistants, des gens qui désirent devenir tes disciples. Je devine qu'il y en a, et même beaucoup, mais qui peut-être n'osent pas t'interroger. Figure-toi donc, lorsque je te questionne, qu'il te pose la même question que moi. Que gagnerons-nous, Gorgias, si nous suivons tes leçons ? Sur quelles affaires serons-nous capables de conseiller la cité ? Sera-ce uniquement sur le juste et l'injuste, ou aussi sur les sujets mentionnés tout à l'heure par Socrate ? Essaye donc de leur répondre.
Gorgias.
Oui, Socrate, je vais essayer de te dévoiler clairement la puissance de la rhétorique dans toute son ampleur, car tu m'as toi-même fort bien montré la voie. Tu sais, je pense que ces arsenaux et ces remparts d'Athènes et l'organisation de ces ports sont dus en partie au conseil de Thémistocle, en partie à ceux de Périclès, et non à ceux des hommes de métier. Socrate, c'est ce qu'on dit de Thémistocle. Quant à Périclès, je l'ai entendu moi-même quand il nous conseilla la construction du mur intérieur. Gorgias, et quand il s'agit de faire un de ces choix dont tu parlais tout à l'heure, Socrate, tu vois que les orateurs sont ceux qui donnent leur avis en ces matières et qui font triompher leur opinion. Socrate, c'est aussi ce qui m'étonne, Gorgias, et c'est pourquoi je te demande depuis longtemps quelle est cette puissance de la rhétorique. Elle me paraît en effet merveilleusement grande à l'envisager de ce point de vue. Gorgias, que dirais-tu si tu savais tout? Si tu savais qu'elle embrasse, pour ainsi dire, en elle-même toutes les puissances. Je vais t'en donner une preuve frappante. J'ai souvent accompagné mon frère et d'autres médecins chez quelqu'un de leurs malades qui refusait de boire une potion ou de se laisser amputer ou cautériser par le médecin. Or, tandis que celui-ci n'arrivait pas à les persuader, je l'ai fait, moi, sans autre art que la rhétorique. Qu'un orateur et un médecin se rendent dans la ville que tu voudras, s'il faut discuter dans l'assemblée du peuple ou dans quelque autre réunion pour décider lequel des deux doit être élu comme médecin, j'affirme que le médecin ne comptera pour rien et que l'orateur sera préféré s'il le veut. Et quel que soit l'artisan avec lequel il sera en concurrence, l'orateur se fera choisir préférablement à tout autre. Car il n'est pas de sujet sur lequel l'homme habile à parler ne parle devant la foule d'une manière plus persuasive que n'importe quel artisan. Telle est la puissance et la nature de la rhétorique. Toutefois, Socrate, il faut user de la rhétorique comme de tous les autres arts de combat. Ceux-ci, en effet, ne doivent pas s'employer contre tout le monde indifféremment, et parce qu'on a appris le pugilat, le pancrace, l'escrime avec des armes véritables, de manière à s'assurer la supériorité sur ses amis et ses ennemis, ce n'est pas une raison pour battre ses amis, les transpercer et les tuer. Ce n'est pas une raison non plus, par Zeus, parce qu'un homme qui a fréquenté la palestre et qui est devenu robuste et habile à boxer aura ensuite frappé son père et sa mère ou tout autre parent ou ami, ce n'est pas, dis-je, une raison pour prendre en aversion et chasser de la cité les pédotribes et ceux qui montrent à combattre avec des armes. Car si ces maîtres ont transmis leur art à leurs élèves, c'est pour en user avec justice contre les ennemis et les malfaiteurs. C'est pour se défendre et non pour attaquer. Mais il arrive que les élèves, prenant le contre-pied, se servent de leur force et de leur art contre la justice. Ce ne sont donc pas les maîtres qui sont méchants, et ce n'est point l'art non plus qui est responsable de ces écarts et qui est méchant. C'est à mon avis ceux qui en abusent. On doit porter le même jugement de la rhétorique. Sans doute l'orateur est capable de parler contre tous, et sur toute chose de manière à persuader la foule mieux que personne, sur presque tous les sujets qu'il veut. Mais il n'est pas plus autorisé pour cela à dépouiller de leur réputation les médecins, ni les autres artisans, sous prétexte qu'ils pourraient le faire. Au contraire, on doit user de la rhétorique avec justice, comme de tout autre genre de combat. Mais si quelqu'un qui s'est formé à l'art oratoire abuse ensuite de sa puissance et de son art pour faire le mal, ce n'est pas le maître, à mon avis, qu'il faut haïr et chasser des villes. Car c'est en vue d'un bon usage qu'il a transmis son savoir à son élève. Mais celui-ci en fait un usage tout opposé. C'est donc celui qui en use mal qui mérite la réprobation, l'exil et la mort, mais non le maître. Socrate. J'imagine, Gorgias, que tu as, comme moi, assisté à bien des discussions, et que tu y as remarqué une chose, c'est que les interlocuteurs ont bien de la peine à définir entre eux le sujet qu'ils entreprennent de discuter, et à terminer l'entretien après s'être instruits et avoir instruit les autres. Sont-ils en désaccord sur un point, et l'un prétend-il que l'autre parle avec peu de justesse ou de clarté, ils se fâchent et s'imaginent que c'est par envie qu'on les contredit et qu'on leur cherche chicane, au lieu de chercher la solution du problème à débattre. Quelques-uns même se séparent à la fin, comme des goujats, après s'être chargés d'injures et avoir échangé des propos tels que les assistants s'en veulent à eux-mêmes d'avoir eu l'idée d'assister à de pareilles disputes. Pourquoi dis-je ces choses? C'est qu'en ce moment, tu me parais exprimer des idées qui ne concordent pas tout à fait et ne sont pas en harmonie avec ce que tu as dit d'abord de la rhétorique. Aussi j'hésite à te réfuter. J'ai peur que tu ne te mettes en tête que si je parle, ce n'est pas pour éclaircir le sujet, mais pour te chercher chicane à toi-même. Si donc tu es un homme de ma sorte, je t'interrogerai volontiers. Sinon, je m'en tiendrai là. De quelle sorte suis-je donc? Je suis de ceux qui ont plaisir à être réfutés, s'ils disent quelque chose de faux, et qui ont plaisir aussi à réfuter les autres, quand ils avancent quelque chose d'inexact, mais qui n'aiment pas moins à être réfutés qu'à réfuter. Je tiens en effet qu'il y a plus à gagner à être réfuté, parce qu'il est bien plus avantageux d'être soi-même délivré du plus grand des maux que d'en délivrer autrui. Car à mon avis, il n'y a pour l'homme rien de si funeste que d'avoir une opinion fausse sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Si donc tu m'affirmes être dans les mêmes dispositions que moi, causons. Si au contraire, tu es d'avis qu'il faut en rester là, restons-y et finissons la discussion. Gorgias. Mais moi aussi, Socrate, je me flatte d'être ceux dont tu as tracé le portrait. Mais peut-être faudrait-il songer aussi à la compagnie. Bien avant notre arrivée, j'ai donné aux assistants une longue séance, et si nous continuons la discussion, elle nous entraînera peut-être un peu loin. Il faut donc aussi penser à eux, et ne pas retenir ceux d'entre eux qui voudraient s'occuper d'autres affaires. Caï répond. Vous entendez vous-même, Gorgias et Socrate, le bruit que font ces messieurs, désireux de vous entendre parler. Pour moi, puissais-je n'avoir jamais d'affaires si pressantes qu'il me faille quitter de pareils entretiens et de tels interlocuteurs, et trouver plus d'avantages à faire autre chose. Calliclès. Par les dieux, Caïréphon, moi aussi j'ai déjà assisté à bien des entretiens, mais je ne sais pas si j'y ai jamais goûté autant de plaisir qu'à présent. Aussi, dussiez-vous discuter tout le jour, moi, j'en serais charmé. Socrate. Eh bien, Calliclès, je n'y mets pour ma part aucun obstacle, si Gorgias y consent. Gorgias. Il serait maintenant honteux pour moi, Socrate, de n'y pas consentir, quand j'ai déclaré moi-même que je répondrais à toutes les questions qu'on voudrait me poser. Si donc il plaît à la compagnie, reprends l'entretien et pose-moi les questions que tu voudras. Socrate. Écoute donc, Gorgias, ce qui me surprend dans tes discours. Peut-être avais-tu raison et t'ai-je mal compris. Tu es capable, dis-tu, de former un orateur, si l'on veut suivre tes leçons. Gorgias. Oui. Socrate. Et de le rendre propre, quel que soit le sujet, à gagner la foule, non en l'instruisant, mais en le persuadant. Gorgias. Parfaitement. Socrate. Tu disais tout à l'heure que, même en ce qui regarde la santé, l'orateur est plus habile à persuader que le médecin. Gorgias. Oui, au moins devant la foule. Socrate. Devant la foule, c'est-à-dire devant ceux qui ne savent pas, car devant ceux qui savent, l'orateur sera certainement moins persuasif que le médecin. Gorgias, c'est vrai. Socrate, si donc il doit être plus propre à persuader que le médecin, il sera plus persuasif que celui qui sait. Gorgias, certainement. Socrate, quoiqu'il ne soit pas médecin, n'est-ce pas? Gorgias, oui. Socrate, mais celui qui n'est pas médecin, est sans doute ignorant dans les choses où le médecin est savant. Gorgias, c'est évident. Socrate, ainsi, l'ignorant parlant devant ses ignorants sera plus propre à persuader que le savant, si l'orateur est plus propre à persuader que le médecin. N'est-ce pas ce qui résulte de là? Ou vois-tu une autre conséquence? Gorgias, la conséquence est forcée, en ce cas du moins. Socrate, et si l'on considère tous les autres arts, l'orateur et la rhétorique n'ont-ils pas le même avantage? La rhétorique n'a nullement besoin de connaître les choses en elle-même, de manière à paraître aux yeux des ignorants plus savants que ceux qui savent. Gorgias. N'est-ce pas une chose bien commode, Socrate, que de pouvoir, sans avoir appris d'autre art que celui-là, égaler tous les spécialistes? Socrate. Si l'orateur, en se bornant à cet art, est ou n'est pas l'égal des autres, c'est ce que nous examinerons tout à l'heure, si notre sujet le demande. Pour le moment, voyons d'abord si, par rapport au juste et à l'injuste, au laid et au beau, au bien et au mal, l'orateur est dans le même cas que relativement à la santé et aux objets des autres arts, et si, sans connaître les choses en elles-mêmes et sans savoir ce qui est bien ou mal, beau ou laid, juste ou injuste, il a trouvé pour tout cela un moyen de persuasion qui le fasse paraître aux yeux des ignorants plus savants, malgré son ignorance, que celui qui sait. Ou bien est-il nécessaire de savoir, et faut-il avoir appris ces choses avant de venir à toi pour apprendre la rhétorique? Sinon, toi qui es maître de rhétorique, sans enseigner aucune de ces choses à celui qui vient à ton école, car ce n'est pas ton affaire, Feras-tu en sorte que devant la foule, il ait l'air de savoir tout cela, quoiqu'il ne le sache pas, et qu'il paraisse honnête, quoiqu'il ne le soit pas? Ou bien, te sera-t-il absolument impossible de lui enseigner la rhétorique s'il n'a pas appris d'avance la vérité sur ces matières? Que faut-il penser de tout cela, Gorgias? Au nom de Zeus, dévoile-moi, comme tu l'as promis il n'y a qu'un instant, en quoi consiste enfin la puissance de la rhétorique. Gorgias. Mon avis à moi, Socrate, c'est que, s'il ignore ces choses-là, il les apprendra, elles aussi, auprès de moi. Socrate. Il suffit. Voilà qui est bien parlé. Pour que tu puisses faire de quelqu'un un bon orateur, il est indispensable qu'il connaisse ce que c'est que le juste et l'injuste, soit qu'il l'ait appris avant, soit qu'il l'ait appris après, à ton école. Gorgias. Cela est certain. Socrate. Mais quoi? Celui qui a appris la charpenterie, est-il charpentier ou non? Gorgias. Il l'est. Socrate. Et celui qui a appris la musique, n'est-il pas musicien? Gorgias. Si. Socrate. Et celui qui a appris la médecine, médecin? Et le même principe ne s'applique-t-il pas aux autres arts? Celui qui a appris un art, n'est-il pas tel que le fait la connaissance de cet art? Gorgias. Si, certainement. Socrate. À suivre ce principe, celui qui a appris la justice est donc juste. Gorgias. Sans aucun doute. Socrate. Mais le juste fait des actions justes. Gorgias. Oui. Socrate. C'est donc une nécessité que l'homme formé à la rhétorique soit juste et que le juste veuille faire des actions justes. Gorgias. Apparemment. Socrate. Donc le juste ne voudra jamais commettre une injustice. Gorgias. Il ne saurait le vouloir. Socrate. Or l'orateur, d'après notre raisonnement, est nécessairement juste. Gorgias. Oui. Socrate. Par conséquent, l'orateur ne voudra jamais commettre une injustice. Gorgias. Il paraît que non. Socrate. Maintenant, te rappelles-tu avoir dit tout à l'heure qu'il ne faut pas s'en prendre aux pédotribes ni les chasser des cités si le boxeur se sert de la boxe pour faire du mal, et pareillement que si l'orateur fait un mauvais usage de la rhétorique, ce n'est pas le maître qu'il faut accuser ni chasser de la cité, mais bien le coupable qui a fait un mauvais usage de la rhétorique. As-tu dit cela, oui ou non? Gorgias. Je l'ai dit. Socrate. Mais ne venons-nous pas de voir à l'instant que ce même homme, l'orateur, est incapable de commettre jamais une injustice, n'est-ce pas vrai? Gorgias. Si, évidemment. Socrate. Mais au début de notre entretien, Gorgias, il a été dit que la rhétorique avait pour objet les discours, non pas ceux qui traitent du pair et de l'impair, mais ceux qui traitent du juste et de l'injuste, n'est-ce pas? Gorgias. Oui. Socrate. Quand je t'ai entendu affirmer cela, j'ai cru, moi, que la rhétorique ne saurait jamais être une chose injuste, puisque ses discours roulent toujours sur la justice. Mais quand peu après tu as dit que l'orateur pouvait aussi faire de la rhétorique un usage injuste, cela m'a surpris. Et considérant le désaccord qui était dans tes discours, j'ai fait cette déclaration que si tu croyais, comme moi, qu'il est avantageux d'être réfuté, il valait la peine de continuer la discussion. Qu'autrement, il fallait la laisser tomber. Puis, après examen, tu vois toi-même que nous reconnaissons au contraire que l'orateur ne peut user injustement de la rhétorique, ni consentir à être injuste. Où est la vérité là-dedans? Par le chien, Gorgias, nous aurons besoin d'une longue séance pour la discerner exactement. Pholos. Quoi donc, Socrate? As-tu réellement de la rhétorique l'opinion que tu viens d'exprimer? T'imagines-tu, parce que Gorgias, par pudeur, t'a concédé que l'orateur connaît le juste, le beau et le bien, en ajoutant que, si l'on venait à lui sans connaître ces choses, il les enseignerait lui-même, et parce qu'à la suite de cette concession, il en est résulté peut-être quelques contradictions dans ses discours, ce dont tu t'applaudis après l'avoir engagé toi-même dans ces questions, qui peux-tu croire qui avouera ne pas connaître lui-même le juste et ne pouvoir l'enseigner aux autres? Il faut avoir bien mauvais goût pour amener la discussion sur un pareil terrain. Socrate. Ô charmant Pholos, c'est justement pour cela que nous voulons avoir des camarades et des enfants. C'est pour que, quand, devenus vieux, nous faisons un faux pas, vous les jeunes, vous vous trouviez là pour nous redresser dans nos actes et dans nos discours. Ainsi, à présent, si Gorgias et moi avons fait un faux pas en discutant, tu es là pour nous redresser. Tu le dois. Pour ma part, Si tu trouves que nous avons eu tort de nous mettre d'accord sur tel ou tel point, je te promets d'y revenir à ta fantaisie, à condition que tu prennes garde à une chose.
Pholos.
À quelle chose ?
Socrate.
À restreindre, Pholos, la prolixité dont tu voulais user au début.
Pholos.
Comment ? Je n'aurai pas le droit de parler aussi longuement qu'il me plaira.
Socrate.
Tu jouerais vraiment de malheur, excellent Pholos, si venant à Athènes, l'endroit de la Grèce où l'on a la plus grande liberté de parler, tu étais le seul à n'y pas jouir de ce droit. Mais mets-toi à ma place. Si tu fais de longs discours sans vouloir répondre à mes questions, ne serais-je pas bien à plaindre à mon tour s'il ne m'est pas permis de m'en aller sans t'écouter ? Cependant, si tu t'intéresses à la discussion que nous avons tenue et que tu veuilles la rectifier, reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tel point qui te plaira. Et tantôt questionnant, tantôt questionné comme nous avons fait Gorgias et moi, réfute et laisse-toi réfuter. Tu prétends sans doute savoir les mêmes choses que Gorgias, n'est-ce pas ?
Pholos.
Oui. Socrate. Comme lui aussi, tu invites les gens à te poser toutes les questions qu'il leur plaît, étant sûr de savoir répondre.
Pholos.
Certainement.
Socrate.
Eh bien maintenant, choisis ce qu'il te plaira, d'interroger ou de répondre.
Pholos.
C'est ce que je vais faire. Réponds-moi, Socrate. Puisque Gorgias te paraît embarrassé sur la nature de la rhétorique, dis-nous ce qu'elle est à ton sens.
Socrate.
Me demandes-tu quelle sorte d'art elle est selon moi ?
Pholos.
Oui.
Socrate.
Je ne la tiens pas pour un art, Pholos, à te dire le vrai.
Pholos.
Mais alors pourquoi la tiens-tu ?
Socrate.
Pour une chose dont tu prétends avoir fait un art dans le traité que j'ai lu dernièrement.
Pholos.
Qu'entends-tu par là ?
Socrate.
J'entends une sorte de routine.
Pholos.
Ainsi pour toi la rhétorique est une routine ?
Socrate.
Oui, si tu n'as rien à m'objecter.
Pholos.
Une routine appliquée à quoi ?
Socrate.
À procurer une sorte d'agrément et de plaisir.
Pholos.
Alors tu ne trouves pas que c'est une belle chose que la rhétorique, si elle est capable de procurer du plaisir ?
Socrate.
Voyons, Pholos, m'as-tu déjà entendu expliquer ce que je crois qu'est la rhétorique, pour passer ainsi à la question suivante, à savoir si je ne la trouve pas belle ?
Pholos.
Ne t'ai-je donc pas entendu dire que tu la tiens pour une sorte de routine ?
Socrate.
Puisque tu attaches tant d'importance à faire plaisir, ne voudrais-tu pas me faire un petit plaisir, à moi ?
Pholos.
Je veux bien.
Socrate.
Alors demande-moi quelle sorte d'art est à mes yeux la cuisine.
Pholos.
Je te le demande donc. Quel art est la cuisine ?
Socrate.
Ce n'est pas du tout un art, Pholos.
Pholos.
Qu'est-ce donc alors ? Dis-le.
Socrate.
Je dis que c'est une espèce de routine.
Pholos.
Appliquée à quoi ? Dis-le.
Socrate.
Je dis à procurer de l'agrément et du plaisir, Pholos.
Pholos.
Alors, cuisine et rhétorique, c'est tout un.
Socrate.
Non pas, mais elles sont des parties de la même profession.
Pholos.
De quelle profession veux-tu parler ?
Socrate.
La vérité est peut-être un peu rude à dire, et j'hésite à la dire à cause de Gorgias. J'ai peur qu'il ne s'imagine que je veux jeter le ridicule sur sa profession. Je ne sais pas, moi, si la rhétorique que Gorgias professe est ce que j'ai en vue, car notre conversation de tout à l'heure ne nous a pas éclairé du tout sur ce qu'il en pense. Mais ce que moi j'appelle rhétorique, c'est une partie d'une chose qui n'est pas du tout belle.
Gorgias.
Quelle chose, Socrate ? Parle sans crainte de m'offenser.
Socrate.
Eh bien, Gorgias, je crois que c'est une pratique qui n'a rien d'un art, mais qui demande un esprit sagace, viril, et naturellement apte au commerce des hommes. Le fond de cette pratique est pour moi la flatterie. Elle me paraît comprendre plusieurs parties. La cuisine en est une. Celle-ci passe pour être un art, mais à mon sens, elle n'en est pas un. C'est un empirisme et une routine. Parmi les parties de la flatterie, je compte aussi la rhétorique, la toilette et la sophistique. Il y en a quatre, qui se rapportent à quatre objets. Si maintenant Pholos veut m'interroger, qu'il le fasse, car je ne lui ai pas encore expliqué quelle partie de la flatterie est, selon moi, la rhétorique. Il ne s'est pas aperçu que je ne lui avais pas encore répondu sur ce point, et il persiste à me demander si je ne la trouve pas belle. Mais moi, je ne lui répondrai pas si je tiens la rhétorique pour belle ou laide, avant d'avoir répondu d'abord sur ce qu'elle est. car ce ne serait pas dans l'ordre, Polos. Demande-moi donc, si tu veux le savoir, quelle partie de la flatterie est, à mon avis, la rhétorique.
Polos.
Soit, je te le demande. Dis-moi quelle partie c'est.
Socrate. Comprendras-tu ma réponse?
À mon avis, la rhétorique est le simulacre d'une partie de la politique.
Polos. Qu'entends-tu par là? Veux-tu dire qu'elle est belle ou laide?
Socrate. Je dis qu'elle est laide, car j'appelle laid ce qui est mauvais, puisqu'il faut te répondre comme si tu savais déjà ce que je veux dire.
Gorgias. Par Zeus, Socrate, moi non plus je ne comprends pas ton langage.
Socrate. Je n'en suis pas surpris, car je ne me suis pas encore expliqué clairement. Mais Polos est jeune et vif.
Gorgias.
Eh bien, laisse-le là. Et dis-moi comment tu peux soutenir que la rhétorique est le simulacre d'une partie de la politique.
Socrate, je vais donc essayer d'expliquer ce qu'est à mes yeux la rhétorique, si elle n'est pas ce que je crois.
Polos me réfutera. Il y a sans doute quelque chose que tu appelles corps et quelque chose que tu appelles âme.
Gorgias, sans contredit.
Socrate, ne crois-tu pas qu'il y a pour l'un et l'autre un état qui s'appelle la santé?
Gorgias, si.
Socrate, et que cette santé peut n'être qu'apparente et non réelle.
Voici ce que je veux dire. Beaucoup de gens qui paraissent avoir le corps en bon état ont une mauvaise santé, qu'il sera difficile de déceler à tout autre qu'un médecin ou un maître de gymnastique.
Gorgias, c'est vrai.
Socrate, je prétends qu'il y a de même, dans le corps et dans l'âme, quelque chose qui les fait paraître bien portants, quoiqu'ils ne s'en portent pas mieux pour cela.
Gorgias, c'est juste.
Socrate, voyons maintenant si j'arriverai à t'expliquer plus clairement ce que je veux dire. Je dis que, comme il y a deux substances, il y a deux arts. L'un se rapporte à l'âme. Je l'appelle politique. Pour l'autre, qui se rapporte au corps, je ne peux pas lui trouver tout de suite un nom unique. Mais dans la culture du corps, qui forme un seul tout, je distingue deux parties. La gymnastique et la médecine. De même dans la politique, je distingue la législation, qui correspond à la gymnastique, et la justice, qui correspond à la médecine. Comme les arts de ces deux groupes se rapportent au même objet, ils ont naturellement des rapports entre eux, la médecine avec la gymnastique, la justice avec la législation. Mais ils ont aussi des différences. Il y a donc les quatre arts que j'ai dit, qui veillent au plus grand bien, les uns du corps, les autres de l'âme. Or, la flatterie qui s'en est aperçue, non point par une connaissance raisonnée, mais par conjecture, s'est divisée elle-même en quatre, qui, se glissant sous chacun des arts, elle se fait passer pour celui sous lequel elle s'est glissée. Elle n'a nul souci du bien, et elle ne cesse d'attirer la folie par l'appât du plaisir. Elle la trompe, et obtient de la sorte une grande considération. C'est ainsi que la cuisine s'est glissée sous la médecine, et feint de connaître les aliments les plus salutaires au corps, si bien que, si le cuisinier et le médecin devaient disputer devant des enfants ou devant des hommes aussi peu raisonnables que les enfants, à qui connaît le mieux, du médecin et du cuisinier, les aliments sains et les mauvais, le médecin n'aurait qu'à mourir de faim. Voilà donc ce que j'appelle flatterie, et je soutiens qu'une telle pratique est laide, Polos, car c'est à toi que s'adresse mon affirmation, parce que cette pratique vise à l'agréable et néglige le bien. J'ajoute que ce n'est pas un art, mais une routine, parce qu'elle ne peut expliquer la véritable nature des choses dont elle s'occupe, ni dire la cause de chacune. Pour moi, je ne donne pas le nom d'art à une chose dépourvue de raison. Si tu me contestes ce point, je suis prêt à soutenir la discussion. Ainsi donc, je le répète, la flatterie culinaire s'est recelée sous la médecine, et de même sous la gymnastique, la toilette, chose malfaisante, décevante, basse, indigne d'un homme libre, qui emploie pour séduire les formes, les couleurs, le poli, les vêtements, et qui fait qu'en recherchant une beauté étrangère, on néglige la beauté naturelle que donne la gymnastique. Pour être bref, je te dirai dans le langage des géomètres, peut-être alors me comprendras-tu mieux, que ce que la toilette est à la gymnastique, la cuisine l'est à la médecine, ou plutôt que ce que la toilette est à la gymnastique, la sophistique l'est à la législation, et ce que la cuisine est à la médecine, la rhétorique l'est à la justice. Telles sont, je le répète, les différences naturelles de ces choses. Mais comme elles sont voisines,
sophistes et orateurs se confondent pêle-mêle sur le même terrain, autour des mêmes sujets, et ne savent pas eux-mêmes quel est au vrai leur emploi, et les autres hommes ne le savent pas davantage. De fait, si l'âme ne commandait pas au corps, et qu'il se gouverna lui-même, et si l'âme n'examinait pas elle-même et ne distinguait pas la cuisine et la médecine, et que le corps seul en jugea en les appréciant sur les plaisirs qui lui en reviendraient, on verrait souvent le chaos dont parle Anaxagore, mon cher Polos, car c'est là une chose que tu connais. Toutes les choses seraient confondues pêle-mêle, et l'on ne distinguerait pas celles qui regardent la médecine, la santé et la cuisine. Tu as donc entendu ce que je crois qu'est la rhétorique. Elle correspond pour l'âme à ce qu'est la cuisine pour le corps. Peut-être est-ce une inconséquence, à moi qui t'ai interdit les longs discours, de m'être étendu si longuement. Je mérite pourtant d'être excusé, car quand j'ai parlé brièvement, tu ne m'as pas compris. Tu ne savais rien tirer de mes réponses, et il fallait te donner des explications. Si donc à mon tour, je ne vois pas clair dans tes réponses, tu pourras t'étendre toi aussi. Si au contraire je les comprends, laisse-moi m'en contenter. C'est mon droit. Et maintenant, si tu peux faire quelque chose de ma réponse, à ton aise. Polos. Que dis-tu donc? Tu prétends que la rhétorique est flatterie? Socrate. J'ai dit seulement une partie de la flatterie. Et quoi, Polos, à ton âge, tu manques déjà de mémoire? Que feras-tu plus tard? Polos. Alors tu crois que les beaux orateurs sont regardés dans les cités comme des flatteurs, et comme tels, peu considérés? Socrate. Est-ce une question que tu me poses, ou un discours que tu entames? Polos. C'est une question. Socrate. Eh bien, je crois qu'ils ne sont pas considérés du tout. Polos. Comment pas considérés? Ne sont-ils pas très puissants dans l'État? Socrate. Non, si tu entends que la puissance est un bien pour qui la possède. Polos. C'est bien ainsi que je l'entends. Socrate. Eh bien, pour moi, les orateurs sont les moins puissants des citoyens. Polos. Comment? Ne peuvent-ils pas, comme les tyrans, faire mettre à mort qui ils veulent, spolier et bannir qui leur plaît? Socrate. Par le chien, Polos. Je me demande à chaque mot que tu dis si tu parles de ton chef, si tu exprimes ta propre pensée, ou si tu me demandes la mienne. Polos. Mais oui, je te demande la tienne. Socrate. Soit, mon ami. Mais alors tu me poses deux questions à la fois. Polos. Comment deux questions? Socrate. N'as-tu pas dit, ou à peu près, il n'y a qu'un instant, que les orateurs font périr ce qu'ils veulent, comme les tyrans, qu'ils dépouillent et bannissent ce qui leur plaît? Polos. Si. Socrate. Eh bien, je dis que ce sont deux questions distinctes, et je vais répondre à l'une et à l'autre. Je maintiens, moi, Polos, que les orateurs et les tyrans ont très peu de pouvoir dans les États, comme je le disais tout à l'heure, car ils ne font presque rien de ce qu'ils veulent, quoi qu'ils fassent, ce qui leur paraît le meilleur. Polos. Eh bien, n'est-ce pas être puissant, cela? Socrate. Du moins d'après ce que dit Polos. Polos. Moi, je dis non. Je dis oui, au contraire. Socrate. Non. Parle. Tu ne le dis pas, puisque tu as affirmé qu'un grand pouvoir était un bien pour celui qui le possède. Polos. Oui, je l'affirme en effet. Socrate. Crois-tu donc que ce soit un bien pour quelqu'un de faire ce qui lui paraît le meilleur, s'il est privé de raison? Et appelles-tu cela être très puissant? Polos. Non. Socrate. Alors tu vas me prouver que les orateurs ont du bon sens, et que la rhétorique est un art, non une flatterie, par une réfutation en règle. Mais tant que tu ne m'auras pas réfuté, ni les orateurs qui font ce qui leur plaît dans les États, ni les tyrans ne posséderont de ce fait aucun bien. Et cependant le pouvoir, d'après ce que tu dis, est un bien. Tandis que faire ce qui vous plaît, quand on est dénué de bon sens, tu avoues toi-même que c'est un mal. N'est-ce pas? Polos. Oui. Socrate. Dès lors, comment les orateurs et les tyrans seraient-ils très puissants dans les États, si Socrate n'est point réfuté par Polos et convaincu qu'ils font ce qu'ils veulent? Polos. Cet homme-là. Socrate. Je soutiens qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Réfute-moi. Polos. Ne viens-tu pas d'accorder tout à l'heure qu'ils font ce qu'il leur paraît être le meilleur? Socrate. Je l'accorde encore à présent. Polos. Alors ne font-ils pas ce qu'ils veulent? Socrate. Je le nie. Polos. Quand ils font ce qui leur plaît? Socrate. Oui. Polos. Tu tiens là des propos pitoyables, insoutenables, Socrate. Socrate. Retiens ta rancœur. Polos de mon cœur, pour parler à ta manière. Si tu es capable de m'interroger, prouve-moi que je me trompe. Sinon, réponds toi-même. Polos. Je veux bien te répondre, afin de savoir enfin ce que tu veux dire. Socrate, crois-tu que les hommes, toutes les fois qu'ils agissent, veulent ce qu'ils font, ou ce en vue de quoi ils le font? Par exemple, ceux qui avalent une potion commandée par le médecin veulent-ils, à ton avis, ce qu'ils font, avaler une médecine désagréable, ou bien cette autre chose, la santé, en vue de laquelle ils prennent la potion? Polos, il est évident que c'est la santé qu'ils veulent. Socrate, de même ceux qui vont sur mer ou se livrer à tout autre trafic ne veulent pas ce qu'ils font journellement, car quel homme est désireux d'affronter la mer, les dangers, les embarras? Ce qu'ils veulent, je pense, c'est la chose en vue de laquelle ils naviguent, la richesse, car c'est pour s'enrichir qu'on navigue. Polos, c'est certain.
Socrate, n'en est-il pas de même pour tout? Si l'on fait une chose en vue d'une fin, on veut non pas ce qu'on fait, mais la fin en vue de laquelle on le fait.
Polos,
oui.
Socrate, et maintenant y a-t-il quoi que ce soit au monde qui ne soit bon ou mauvais, ou entre les deux, ni bon ni mauvais?
Polos, cela ne saurait être autrement, Socrate.
Socrate, ne comptes-tu pas parmi les bonnes choses la sagesse, la santé, les richesses et toutes les autres semblables, et parmi les mauvaises, celles qui sont le contraire?
Polos,
si.
Socrate,
et par les choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, n'entends-tu pas celles qui tiennent tantôt du bien, tantôt du mal, ou sont indifférentes, comme d'être assis, de marcher, de courir, de naviguer, ou encore comme la pierre, le bois et tous les objets du même genre? N'est-ce pas, à ton avis, ces choses-là qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, ou bien est-ce autre chose?
Polos,
non, ce sont bien celles-là.
Socrate, et maintenant ces choses indifférentes, quand on les fait, les fait-on en vue des bonnes, ou les bonnes en vue des indifférentes?
Polos, nul doute qu'on ne fasse les indifférentes en vue des bonnes.
Socrate,
ainsi, c'est le bien que nous poursuivons en marchant, quand nous marchons. Nous pensons que cela est mieux ainsi. Et quand au contraire nous restons tranquilles, nous le faisons dans le même but, le bien. N'est-il pas vrai?
Polos,
oui.
Socrate, de même encore nous ne tuons, quand nous tuons, nous ne bannissons et ne dépouillons autrui que parce que nous sommes persuadés qu'il est meilleur pour nous de le faire que de ne pas le faire.
Polos, certainement.
Socrate, c'est donc en vue du bien qu'on fait tout ce qu'on fait en ce genre.
Polos, je le reconnais.
Socrate, ne sommes-nous pas tombés d'accord que, quand nous faisons une chose en vue d'une fin, ce n'est pas la chose que nous voulons, c'est la fin en vue de laquelle nous la faisons?
Polos,
certainement.
Socrate, nous ne voulons donc pas égorger des gens, les exiler, les dépouiller de leurs biens par un simple caprice. Nous voulons le faire lorsque cela nous est utile. Si cela nous est nuisible, nous ne le voulons pas, car c'est les biens, comme tu le déclares, que nous voulons. Quant à ce qui n'est ni bon ni mauvais, nous ne le voulons pas, ni ce qui est mauvais non plus. Est-ce vrai? Te paraît-il que j'ai raison, Polos? Oui ou non?
Pourquoi ne réponds-tu pas?
Polos,
tu as raison.
Socrate, puisque nous sommes d'accord là-dessus, si un homme, tyran ou orateur, en fait périr un autre, ou le bannit de la cité, ou lui ravit ses biens, croyant qu'il y trouvera son avantage, et qu'au contraire cela tourne à son préjudice, il fait bien alors ce qui lui plaît, n'est-ce pas?
Polos,
oui.
Socrate, mais fait-il aussi ce qu'il veut, s'il se trouve que le résultat est mauvais?
Pourquoi ne réponds-tu pas?
Polos, il ne me semble pas qu'il fasse ce qu'il veut.
Socrate, dès lors est-il possible qu'un tel homme ait un grand pouvoir dans sa ville, s'il est vrai, comme tu l'admets, qu'un grand pouvoir soit un bien?
Polos,
non, ce n'est pas possible.
Socrate, j'avais donc raison de dire qu'un homme peut faire dans un état ce qui lui plaît, sans posséder pour cela un grand pouvoir, ni faire ce qu'il veut.
Polos, comme si toi-même, Socrate, tu n'aimerais pas mieux avoir la liberté de faire dans l'état ce qui te plairait que d'en être empêché, et comme si, en voyant un homme tuer, dépouiller, mettre au fer qui il lui plairait, tu ne lui portais pas envie.
Socrate, entends-tu qu'il agirait justement ou injustement?
Polos, de quelque manière qu'il agisse, ne serait-il pas enviable dans un cas comme dans l'autre ? Socrate. Ne parle pas ainsi, Polos.
Polos. Pourquoi donc ?
Socrate. Parce qu'il ne faut pas envier les gens qui ne sont pas enviables, non plus que les malheureux, mais les prendre en pitié.
Polos.
Quoi ? Penses-tu que les gens dont je parle soient dans ce cas ?
Socrate. Comment n'y serait-il pas ?
Polos. Alors quiconque tue qui il lui plaît, quand il le fait justement, te paraît être malheureux, et digne de pitié.
Socrate. Non pas.
Mais il ne me paraît pas enviable.
Polos.
Ne viens-tu pas de dire qu'il était malheureux ?
Socrate. Je l'ai dit en effet, camarade, de celui qui a tué injustement, et j'ai ajouté qu'il était digne de pitié.
Quant à celui qui tue justement, je dis qu'il ne doit point faire envie.
Polos. C'est sans doute celui qui meurt injustement qui est digne de pitié et malheureux.
Socrate.
Moins que celui qui le tue,
Polos,
et moins que celui qui meurt justement.
Polos.
Comment cela, Socrate ?
Socrate. Le voici. C'est que le plus grand des maux, c'est de commettre l'injustice.